frappé quand on les voit tous, ce sont tous des hommes. Il y a une forme de virilisme aussi qui accompagne cette espèce de goût pour l'outrance et la transgression.
Je pense que oui, en plus c'est un message très traditionnel. Donc un message, les cinq qu'on a vus, ils passent tous un message très traditionnel, donc un message de valeurs du passé.
Alors, des valeurs du passé, mais d'une façon disruptive, c'est
oui,
ça qui est
le paradoxe. Le slogan de Trump, c'est « Make America Great Again ».
Comme dans l'ancien temps.
Voilà, donc l'ancien temps, les femmes étaient, la vaisselle, hein. C'était pas la politique.
Je crois que vous avez évoqué à un moment donné, dans une de vos interviews, la politique du doigt d'honneur, à propos d'eux.
Ben oui, c'est un peu ça. C'est, premièrement, c'est l'insulte, donc la question de dire sur les autres, t'es une menace, t'es dangereux, c'est cette polarisation. Là, je vois une différence avec Berlusconi.
Oui.
Berlusconi était toujours quelqu'un qui a tenté toujours de séduire tout le monde. À la différence des autres quatre qu'on a vus, Berlusconi, à la fin, il est vrai qu'il a commencé plus tôt que les autres, donc c'était une autre phase aussi de la vie politique, institutionnelle, mais il était beaucoup moins disruptif à la fin, au final, dans les faits.
Vous connaissez Jacques Attali, l'essayiste, il dit que c'est une victoire par le chaos, C-H-A-O-S. Comment se fait-il que les électeurs puissent être fascinés par cela, alors qu'en général, ils ont aussi peur du désordre? Et là, ça fait une victoire.
Ben, je pense que c'est un manque de confiance en la politique. Il faut partir par là. C'est-à-dire, la politique a désormais perdu, le politique en général, a perdu de attractivité avec les gens. Et donc, on se dit, j'ai le vote. Je donne le vote à celui qui me promet la chose la plus proche de moi. Je ne veux pas dire que tout le monde fait ce raisonnement, mais en général, c'est en train de prendre pied. Et c'est donc pourquoi le chaos? Parce que oui, on a peur du désordre, mais en même temps, on ne pense pas que ce soit la politique en tant que telle, ce qui peut donner de l'ordre. Donc on dit... J'ai le vote, je donne le vote à qui va me donner quelque chose à moi. Mais ne faisons pas... Ce n'est pas un cas que le vote, la participation au vote décline. On est dans un monde dans lequel s'il y a 50% des gens qui votent, on applaudit, on dit « Oh là, une grande victoire de la démocratie ». Donc ça veut dire qu'en général, on vit, je pense que ça c'est le vrai sujet et le vrai défi des gens comme Trump, c'est le défi à l'idée de la démocratie en tant que telle. Démocratie avec les contre-pouvoirs, avec l'équilibre des pouvoirs, avec le fait qu'on participe et évidemment on accepte le résultat.
Faisons
pas gaffe sur ça. Hein.
Oui.
Trump est celui, je pense que ça c'est la chose la plus incroyable de son aventure.
L'assaut sur le Capitole.
C'est l'assaut sur
le Capitole. Contre le Capitole lors de la première élection de
évident.
Joe Biden.
C'est quelque chose, donc on n'accepte pas le résultat, donc à la fin on n'accepte pas le principe clé de la démocratie. Les électeurs ont toujours raison.
Il y a aussi un rapport au juge. On réfute le principe démocratique et on réfute aussi la séparation peut-être entre le politique, le juridique. Berlusconi avait ça aussi. Trump et Berlusconi ont ça en commun.
Oui, Berlusconi...
Une façon de défier et de se défier des juges.
Oui, c'est évidemment, c'était une attaque très forte. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée de dire la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est les gens votent, ils votent pour moi, donc je suis... je n'ai pas de limite parce que les gens ont voté pour moi. Évidemment, c'est quelque chose qui est... C'est un point fondamental. Nos démocraties, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est un système de règles et de pouvoirs, de contre-pouvoirs pour lesquels, oui, tu gagnes, tu as la possibilité de gouverner, mais évidemment, il y a un système de limites. Et si tu dépasses ce système de limite, il y a des juges qui interviennent. Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un comme Trump, évidemment, a une approche complètement différente à ça.
Différente. On va évoquer avec vous, Enrico Letta, et avec Anna, une autorité légitime qui détermine ce qui est vrai ou ce qui est faux en politique.
Je vois l'importance et l'intérêt de ce sujet et de cette proposition. C'est important qu'il y ait des approches, des propositions, mais je pense que le sujet est un peu plus compliqué que ça. Et vous allez être surpris par... moi, je pense qu'il y a une seule solution à ce sujet. Ce qui a pourri complètement la vie politique et la question du mensonge et de la vérité, c'est l'anonymat dans les réseaux sociaux. Parce que l'anonymat dans les réseaux sociaux donne la possibilité de dire tout ce que vous voulez sans qu'il y ait aucune possibilité d'être, d'être puni de toute façon.
Et mais ça, là, par exemple, on voit bien dans cet exemple que c'est un élu conservateur, donc il n'y a pas d'anonymat, et pour autant, il ment délibérément.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que dans ce cas, à la fin, les gens lui croient, ceux qui veulent croire, lui croient. Mais tout ça a un substrat, et le substrat est le fait qu'on ne croit plus à rien, parce que dans les réseaux sociaux, on trouve tout, et avec et l'anonymat, la vraisemblable et le vrai, on ne comprend pas plus de quoi on sait.
Et bien ça nous mène à la suite de ce hors-série.
C'est partie de cette disqualification de la politique, c'est-à-dire à la fin, au final, ce qui est dans notre société aujourd'hui n'est plus la politique au top de réputation, d'importance, politique disqualifiée, et donc à la fin, croire à un mensonge en politique, si ça me emmène quelque chose de utile pour moi, personnellement, il me promet qu'il élimine les immigrés autour de ma porte, qu'il enlève des impôts. Je sais qu'il ne va pas le faire. Mais à la fin, je me dis mieux lui que l'autre qui me dit des discours abstraits.
Il y a aussi, dans cette génération d'hommes politiques, la volonté d'humilier la caste. Ça, c'est un diagnostic fait par Giuliano D'Ampoli, l'écrivain. Vous appartenez, du point de vue peut-être de Trump, qui lui-même appartient à une caste
l'élite,
socio-culturelle, à l'élite. Mais vous êtes vécu comme un politique, donc appartenant à une caste. Ouais. Comment fait-on par rapport à cette problématique d'humilier la caste, qui est par rapport à l'apanage des populistes?
Là, c'est un jeu c'est un jeu terrible, parce que c'est là que la disqualification du politique et de la politique a commencé. Parce que quand tu mets tous ensemble, ils sont tous pires. Regardez Milei avec
tronche. Oui.
Évidemment, ça donne l'idée donc que... Mais ce qui est incroyable, c'est celui qui prend la tête de tout ça, à la fin, il s'entoure de toute façon de politique.
Oui, alors regarde, vous parliez de Milei, le président élu à la tête de l'Argentine il y a un an. Lui aussi, il caricature ses adversaires quand il ne les insulte pas.
Porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias.
On se souvient d'Albert Camus, l'écrivain français Albert Camus, dans Le Premier Homme, qui disait « Un homme, ça s'empêche ». Dans le sens où si ça ne s'empêche pas, ça libère toutes les pulsions de mort, et par contamination ou défi, ça les autorise chez les autres, et c'est la voie à la barbarie. Un homme, ça s'empêche, tous ces gens ont oublié ça.
Moi, je pense
cette notion de décence, d'auto-contrôle.
Moi, franchement, je suis énormément préoccupé par tout ça, parce que tout ça, ça a du succès. Il faut absolument pas oublier le fait que Trump a gagné la deuxième fois beaucoup plus légitimé que la première. La première, il était très peu légitimé. Il n'avait pas gagné dans le vote absolu. Deuxième fois, il gagne. Il gagne clairement. Milei, il a gagné, on ne peut rien dire.
Oui.
Donc à la fin, il gagne. Ça veut dire que nos sociétés aujourd'hui se trouvent dans une situation de dépaysement dans beaucoup de couches de la société, qu'elles arrivent à croire à des choses incroyables, parce que en fait, moi je pense, l'accélération de la globalisation, des changements font en sorte que les gens ont peur de l'avenir.
Vous parlez de sentiments de désorientation et d'aliénation même. Mais pardon, Nicolette, en même temps, ils ont gagné sur des idées, que ce soit Trump ou Milei. Trump, il a fait campagne sur le pouvoir d'achat, la lutte contre l'immigration, le protectionnisme, les emplois industriels, et ça a marché aussi. Il y a aussi du fond. La forme est venue le servir, mais les gens aussi ont aussi voté pour un programme.
Oui, je pense que c'est ça, et je pense que dans le cas de Trump, nous, les Européens, ça va être un énorme problème. Parce que s'il va faire ce qu'il a dit, alors, disons, d'un côté, pour ceux qui aiment l'Europe unie, peut-être c'est la grande opportunité de notre vie.
Absolument, vous dites, je suis optimiste, il est le meilleur fédérateur pour l'Europe.
Oui,
que l'Europe va se réveiller.
Mais il va obliger tout le monde à dire, bon, il faut se mettre ensemble, parce que, puisqu'il a dit, je vais défendre l'industrie américaine, les produits américains, je vais taper avec les tarifs contre les autres, contre donc les Européens, Donc ça va absolument péter là.
Mais pardon, mais on disait la même chose en 2016 quand il a été élu la première fois. Là, vous dites l'Europe va enfin passer à l'âge adulte. Mais on l'espérait aussi quand Trump a été élu en 2016 pour son premier mandat. Ça n'est pas advenu.
Il y a eu deux différences. La première, c'est que Trump 1, de mon point de vue, était dangereux dans les paroles, beaucoup moins dans les faits. En fait, sur le protectionnisme, Trump 1 n'a rien fait d'important. Il a été bloqué. Sur la question de défense, l'OTAN, etc., il a été bloqué. Le Trump 2, c'est ce qui me préoccupe parce qu'il a clairement dit, cette fois-ci, les gens de Washington ne vont pas me bloquer. Ce qui avait été le cas probablement la première phase. Donc maintenant, on va voir ce que ça va être. Mais je pense que c'est, pour l'Europe, c'est vraiment le baptême du feu. Hein. C'est là qu'on va décider si on veut exister ou pas.
Est-ce qu'on peut revenir à votre pays ? Qui est dirigée par Mme Meloni depuis 2 ans, qui avait été absolument outrancière dans ses propos, et puis qui a l'air de s'être normalisée, en tout cas au niveau de ses actions et aussi au niveau de son langage. Ça veut dire qu'il y a un principe de réalité qui peut l'emporter à un moment donné.
Moi, je pense que le principe de réalité s'appelle...
Par rapport à ses outrances ?
Non, s'appelle Europe, euro et dette.
Ah. Mmh.
C'est-à-dire, quand vous avez la dette qu'a l'Italie, quand vous avez la dette qu'ont autres pays, hein, je ne parle pas seulement de l'Italie, et vous faites partie de l'euro, vous êtes sauvé seulement par l'Europe, par la solidarité des autres. Et là, c'est un point important parce que l'histoire italienne a eu un tournant. Le tournant, c'est novembre 2011. L'Italie était en train de sauter en l'air à cause du spread, donc des taux d'intérêt qui étaient liés au fait qu'on ne croyait pas, c'était Berlusconi, le gouvernement, c'est le moment où il est sorti, il a terminé, il a démissionné. Il a démissionné parce que le pays était en train d'aller dans le chaos le plus total. Pourquoi ? Parce qu'il avait défié Bruxelles sur la dette. Il avait dit qu'il n'avait pas été conséquent aux choses qu'il fallait faire.
Donc elle s'en est souvenue.
Voilà. Elle était ministre de son gouvernement, il faut se rappeler. C'était la plus jeune ministre de son gouvernement. Donc elle a vécu ça et je pense qu'elle se souvient de ce qui s'est passé. Et donc Bruxelles est l'assurance vie de tout pays européen.
Très
donc
bien.
On peut faire du Bruxelles bashing à parole.
On peut insulter Bruxelles, mais...
C'est autre chose.
Très bien, Enrico Letta. Alors, on va revenir sur... évoquer à propos de l'alliage entre Donald Trump et Elon Musk, quelque chose qui fait qu'on est passé de la post-vérité au post-légal.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bien, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait eu un édito dans le Guardian de Catherine Weiner qui nous expliquait l'ère de la post-vérité, en effet. Et là, on passe encore d'un cran, donc, pour ces nouvelles élections. Et quand je dis post-law, ou l'ère de la post-law ou du post-légal, c'est que tout d'un coup, même l'état de droit, la règle de droit n'est plus du tout opérante et n'a plus, semble-t-il, de valeur réelle ou opérante. Et quand, en fait, Elon Musk est mis à la tête de ce DOGE, qui est la commission de déficience gouvernementale, en gros pour sabrer l'État dans une vision libertarienne de droite, etc., en réalité, il est à la fois jugé parti, il a des conflits d'intérêts majeurs, et pourtant, il y sera, et a priori, ça ne sera pas d'un point de vue institutionnel qu'il y aurait de la résistance. Et donc là, on a un vrai enjeu démocratique, politique, en fait, ils deviennent la loi. Musk devient, entre autres, un des leviers de la loi.
Et en plus, il n'a pas été élu. Parce que ça, c'est
un qui a été nommé, j'ajoute. C'est ça.
J'ajoute que la question de son rôle dans les satellites est, je pense, quelque chose de mon point de vue, inquiétant. C'est-à-dire, on sait tous très bien que nos vies personnelles, de chacun d'entre nous, nos activités, notre santé, tout le reste, dépend aujourd'hui des données, des satellites et tout ça. Et aujourd'hui, on a un homme, en particulier, un privé, qui a le domaine mondial de ce domaine.
Et ce qui est incroyable, donc, il y a eu la réouverture, la cérémonie pour Notre-Dame. Donc, vous avez tous vu cette photo
à Paris, début décembre, absolument.
Incroyable, où vous avez tout l'ancien monde regardant Elon Musk avancer le nouveau monde. Et symboliquement, elle est incroyable, cette histoire, parce que véritablement, elle est symptomatique de la paralysie des institutions du XXe et de la classe gouvernante du XXe siècle face à ces nouveaux acteurs totalement hybrides qui ne sont plus des acteurs technologiques, qui sont aujourd'hui, ils maillent la nouvelle idéologie du XXIe siècle.
À ce moment-là, Enrico Letta évoquait les populistes qui promettent le retour au monde d'avant. Vous, vous parlez de rétrofuturisme. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est la même chose.
C'est alors il y a quelque chose en plus dans cette histoire de de rétrofuturisme qui n'est pas mon invention conceptuelle. Je l'avais vu chez un éditorialiste de Politico. J'avais trouvé l'idée très intéressante. C'est un ultra-conservatisme sur les questions vraiment de mœurs et de valeurs, bigot, traditionnaliste, suprémaciste, machiste, ce que vous voulez, tout ce qu'on connaît par cœur et que vous aviez évoqué en première partie. Ça, c'est plutôt le passé, et en même temps, c'est une projection extraordinairement testostéronée vers le futur, vers Mars, les fusées. Et en fait, Musk a donné cette légitimité, cette puissance, et aussi une forme de plus grande jeunesse à Trump. Et c'est cet alliage qui est ce rétrofuturisme, et en fait, avec tout un tas d'idéologies de la Silicon Valley, du long-termisme, du transhumanisme, avec une obsession, littéralement, c'est Mars.
Et vous dites en même temps, nous sommes sur l'autoroute de nouveaux totalitarismes aux États-Unis, même un régime techno-autoritaire. Mais en même temps, on pourrait vous objecter que Twitter n'est pas si fort que ça. Enfin, je veux dire, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont importants, Facebook, Instagram. Aujourd'hui, majoritairement, les gens sont là. Donc, il y a une forme d'équilibre qui peut se créer et les gens faire leur propre jugement.
Alors, en fait, tout dépend de comment vous allez définir le techno-autoritarisme. Si le techno-autoritarisme, c'est être utilisateur passif de X, oui, en effet, on pourrait dire, vous n'avez qu'à aller sur Blue Sky, sur Mastodon, sur je ne sais où, et puis l'affaire est réglée. En vérité, c'est que X Twitter est un véhicule idéologique absolument extraordinaire, qui est une caisse de résonance de la désinformation, des groupes d'extrême droite, complotistes, donc c'est un véhicule idéologique qui reste le lieu que vous, quoi qu'on en dise, où se fixe d'une certaine façon la parole politique, ça reste le premier réflexe des politiques aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Alors oui, vous avez des médias qui partent, etc., mais n'empêche que. Et puis la question du techno-autoritarisme, c'est aussi, si on revient à la question contraire, celle de la démocratie, celle de la préservation de quoi ? De nos libertés fondamentales. Et pardon, à aucun moment, Trump ou Musk ne parlent de nos libertés ou de nos droits civiques fondamentaux, c'est même le contraire. C'est plutôt un projet pour les détricoter, a priori.
Enrico Letta, vous souscrivez ?
Oui, et j'ajoute à ça, je fais le pas en avant en disant que tout ça se lie à la destruction du monde des médias indépendants.
Traditionnels et indépendants.
C'est-à-dire, on entre dans le monde des médias et on construit ces gens-là, mais d'autres construisent des médias qui sont simplement l'écho de leurs convictions et qui servent pour attaquer les autres. Et donc, chaque spectateur, chaque auditeur, il a son média de référence, il regarde son média, c'est un peu la boule de Twitter, tu es dans ta boule. Alors que la question fondamentale est d'avoir des médias indépendants qui donnent une information qui soit la plus indépendante que possible. Aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs de notre société.
Et un des enjeux. Vous évoquez des milices numériques à ce moment-là, notamment à propos des gens qui suivent Javier Milei, qui a 6 millions d'abonnés sur Instagram et 4 millions sur X, ex-Twitter. Vous évoquez vraiment des milices numériques, le mot est fort.
Oui, et on a un autre exemple encore plus récent, c'est ce qui se passe en Roumanie. Et donc, en fait, George Iscu, ce qui est très intéressant dans son cas, c'est qu'il n'a pas
l'espace en Roumanie. L'élection a été annulée,
Annulée, le premier tour annulé.
Qui est critiqué d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais pourquoi, au nom de quoi, ça a été annulé? Alors parce que le candidat est d'extrême droite et qu'il a fait florès sur les réseaux sociaux.
Alors, plusieurs choses sur ce cas qui est un cas d'école. La première, c'est qu'en fait, vous avez un candidat qui n'a pratiquement pas fait campagne dans la vie réelle, dans la vie physique, quand je parle du ministre.
Candidat à la présidentielle, Romain.
Vous pouvez faire du recrutement de masse via ces aéropages de lieux, de milieux, de cercles numériques. Ça, c'est la première chose. Vous avez aussi tout un tas de ce qu'on appelle l'alt-tech, tous ces petits réseaux très confidentiels, type Rumble, Odyssey, etc., où se joue l'émergence de ces idéologies qui sont derrière répercutées, blanchies sur des réseaux sociaux plus mainstream. Et puis, attention, sur l'élection américaine, on parle beaucoup de X-Twitter parce que Musk. Et je sais que Musk fascine, d'accord. Mais attention, il n'y a pas eu que ça. Vous avez aussi toute la famille de podcasts et de podcasteurs qui sont allés chercher les jeunes blancs. Donc démographiquement, il s'est joué quelque chose sur tout un ensemble de médias, sur un continuum médiatique.
Une dernière chose, vous êtes sur les réseaux sociaux ?
Je suis sur les réseaux sociaux, oui.
Vous envisagez de boycotter X ? Vous êtes posé la question ?
Je me suis posé la question. À la fin, je me suis bloqué jusqu'à maintenant de le faire parce que je ne vois pas aujourd'hui une alternative pour être là, pour dire des choses, pour se faire écouter. Et c'est un problème. C'est un problème.
La caisse de résonance ?
Problème sérieux.
Blue Sky n'a absolument, par exemple aujourd'hui, qui est un peu l'alternative en termes d'expérience, n'a pas du tout la même portée. Donc c'est très très compliqué.
Il l'aura peut-être un jour.
Oui, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dupliquer les usages. Quitter X, est-ce que ce n'est pas une forme de désertion,
de démission politique aussi?
Moi, je pense que vous êtes d'accord. Et que vous